Il fut un temps, FX, encore une fois, moi pis mes maudits souvenirs de vieux monsieur. Il fut un temps où à midi, j'étais chez moi, parce que les cours se terminaient à 11h20, il y avait un autobus qui pouvait nous ramener à la maison pour aller dîner à la maison.
Ah ouais.
Et
jamais vécu ça.
Je prenais cet autobus du midi pour aller dîner chez moi. Ma maman me préparait un petit repas. Et à midi, c'était les pierres à feu.
Aïe, 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 aïe.
Fred Caillou, Arthur Laroche, Delima, évidemment Dino et toute la belle famille des pierres à feu qui m'accompagnaient alors que je mangeais mon dîner avant de retourner à l'école.
C'est bon.
Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça. T'as vécu ça, Robbie, toi?
Flintstone.
Oui, Flintstone. Ah
oui. Les dîners pierres à feu.
Ben, les dîners pierres à feu. Alors, Robbie Hart qui est avec ses deux acolytes pour s'installer. Je vous rappelle que à compter de 13h, ouais, on va se faire un spécial sur le stade, les 50 ans du stade des Jeux olympiques, bien sûr, parce que Robbie Hart est en préparation d'un documentaire qui va paraître l'an prochain. Il a fait paraître déjà un documentaire sur nos amours, les expos, qui est disponible en ce moment sur Crave, en passant. C'est sorti en salle l'an passé. Voilà, Robbie, on pourra lui discuter, on pourra jaser avec lui tout à l'heure, et on va ouvrir les lignes, parce qu'on sait que c'est un sujet polarisant. Celui du stade olympique, il y en a qui veulent le jeter à terre, ça coûte trop cher. Il y en a d'autres comme moi qui veulent le préserver parce que c'est un symbole puissant. Alors, on aura ça à 13h. Et de 12h30, autour d'eux, on sera 100% pendant une demi-heure. Ouais. Là, Grand Prix avec Jean-Max et Greg Langto, notamment. J'ai un petit montage pour vous aussi. Mais pour le moment, il est là, il est prêt, il est fringant, toujours armé d'une casquette retentissante. Martin Thériault, salut!
Salut, Martin!
Salut les gars, comment ça va?
Ça va bien. Écoute,
je m'excuse de te faire manquer des pierres à feu ce midi, là.
Ouais, ben moi quand j'étais plus jeune, je te dirais que la tradition à midi, on écoutait la radio et c'était un peu plus le décompte dans 10 secondes sur midi. Donc moi c'est correct.
c'était pas les pierres à feu. Hey Martin, on voulait commencer par mettre la table pour le match numéro 4 Oilers Panthers ce soir, mais il y a eu la transaction Chris Kreider qui est arrivée en fin de matinée. Chris Kreider échangé aux Ducks d'Anaheim, il a décidé de lever sa clause de non-échange. Et dans la transaction qui fait partie des joueurs inclus et qui prendra la direction des Rangers de New York, il y a un espoir de deuxième ronde repêché en 2023. Carey Terrence, 59e choix au total, 39 points en 45 matchs en Ligue de l'Ontario cette année. Peux-tu nous parler un peu de... Parce que je me doute que tu dois l'avoir suivi, que tu dois le connaître, tu connais tous les espoirs. Peux-tu nous parler un peu de lui?
Ouais, je connais très bien Terrence. Écoute, c'est quelqu'un qui a gagné deux fois la médaille d'or avec les États-Unis au championnat mondial de hockey junior. Essentiellement, Carey Terrence, je dirais que c'est un gars d'énergie. C'est le potentiel qu'on peut lui donner, c'est peut-être quatrième trio, okay, peut-être troisième si ça va vraiment bien. Et Terrence, je te dirais que c'est quelqu'un qui est bon pour un style nord-sud. Donc, si tu veux appliquer de l'échec avant, si tu veux être intense, si tu veux aller frapper, Terrence, c'est vraiment ton homme. C'est quelqu'un qui a un coup de patin extraordinaire, mais par contre, au niveau des habiletés, là, la créativité, la vision de jeu, les mains, là, ça laisse pas mal à désirer. C'est pas mal quelqu'un qui prend des décisions simples, va pas nécessairement prendre la bonne décision avec la rondelle. Donc, essentiellement, là, les Rangers qu'on obtient, là, c'est pas mal un joueur de profondeur.
Ouais, puis ce que je comprends aussi dans cette transaction-là, et tu me diras si tu as la même compréhension, les Rangers veulent libérer de l'argent. Chris Kreider coûte 6,5 millions de dollars pour les deux prochaines années. On pourrait peut-être s'attendre à ce que les Rangers fasse l'acquisition d'un autre joueur durant l'été et on libère de l'espace en échangeant Chris Kreider.
Ben, je pense que c'est clair que c'est ça la stratégie du côté de Chris Drury. On veut clairement libérer de la place sous la masse salariale. On va acheter d'autres joueurs. Je regarde un peu les scénarios, les gars. Tu sais, il y a plusieurs options. Bon, l'option des transactions, moi, je trouve que la banque d'espoir des Rangers diminue quand même un petit peu. Oui, tu as des gars comme Brennan Ottman que tu pourrais échanger, par exemple, mais... je sais pas si on va être capable de séduire une équipe. Et on a déjà échangé les choix 2 de 4e tour pour 2026. Donc, pour une offre hostile, on n'a pas ce qu'il faut en ce moment. Ou du moins, ça pourrait être un peu douteux. Ce qui m'amène peut-être au marché des joueurs autonomes. Est-ce qu'on veut viser quelqu'un comme... je lance des noms comme ça. Des Brock Besser, des Nicolas Ehlers, des Sam Bennett. Quoique là, les rumeurs disent qu'il pourrait demeurer, ouais, avec les Panthers. Mais des gars comme ça, on dirait que ça me laisse penser ça. Et de l'autre côté, moi, je trouve que c'est un peu décevant ce que Chris Drury fait. T'sais, oui, je comprends que Chris Kreider n'a pas eu la meilleure saison, mais moi, je lui aurais donné au moins le bénéfice du doute. C'est quand même un vétéran. C'est quand même quelqu'un qui a vécu énormément de belles années, qui a été dans les meilleurs de l'histoire des Rangers. qui a eu une mauvaise saison parce que tout a été croche l'an dernier. Tu sais, Peter Laviolette, ça s'est pas nécessairement bien passé. Il y a quand même une saison de 75 points il y a 2 ans. Moi, je lui aurais donné l'occasion au moins de rebondir un petit peu. C'est un gars qui a un coup de patin. C'est un gars qui a vraiment la force de caractère pour rebondir. Moi, je lui aurais donné une chance. Et là, de l'échanger contre ce que je viens de dire, un espoir peut-être potentiel de quatrième trio et de se rabattre sur le marché des joueurs autonomes, je suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie du côté des Rangers.
Ouais, je suis bien d'accord. Pour un gars qui a marqué le plus de buts dans l'histoire des Rangers de New York, Chris Kreider, une saison de 52 buts aussi à son compteur en 2021-2022. C'est un joueur d'impact, c'est un joueur qui est capable d'utiliser... C'est un joueur de série, Chris Kreider aussi, là, qui est capable d'utiliser son physique en série. Il y avait les Rangers tatoués sur le cœur. Je suis un peu surpris de cette transaction-là, mais regarde ce que Drury fait depuis un an. Là, on a échangé beaucoup de joueurs. Trouba qui est parti également avec les Ducks d'Anaheim. On libère de l'espace, on échange beaucoup de gars qui ont fait partie de ce noyau-là pendant plusieurs années. Je pense qu'on essaie quand même de revamper les Rangers de New York en gardant le noyau, là, Shesterkin, Panarin et Fox aussi en défense. C'est mon opinion, c'est ce que je perçois là, des mouvements de personnel au courant de la dernière année.
C'est clair, tu sais, je pense que Chris Drury essaie de mettre son empreinte un petit peu sur l'équipe. Il essaie de faire des transactions un peu de tous les côtés. Ça s'est pas nécessairement bien passé, donc là justement on va échanger des Jacob Trouba qui lui également est du côté des Ducks. Donc tu prends l'angle de Kreider, il y a quand même certaines personnes qui le connaissent là-bas, mais c'est ça, tu sais, c'est un peu désolant, ça va être un peu extrême ce que je vais dire, mais je trouve que Chris Drury a démoli les Rangers de New York.
Ouais, je comprends.
Tu sais, il y avait beaucoup de bons éléments. Je me souviens, là, lors d'un podcast il y a 3 ou 4 ans, je disais que les Rangers étaient probablement la prochaine puissance de la LNH. Ce que Jeff Gorton avait réussi à bâtir, c'était incroyable. On avait une belle ligne de centre avec Mika Zibanejad. À l'époque, on avait Ryan Strome. T'avais Alexis Lafrenière qui venait de débarquer. T'avais des Panarin, des Kreider, des gars comme ça. Et là, t'échanges un peu tout le monde pour, oui, des actifs, oui, du futur, oui, des jeunes joueurs, mais tous des joueurs qui sont pas nécessairement des valeurs sûres. Et là, tu regardes le scénario aujourd'hui. Bon, Adam Fox est en défense. On a Keandre Miller, qui lui, d'ailleurs, son nom est également dans les rumeurs. Et là, par la suite, tu sais, je regrette, mais c'est pas avec des Will Borgen, des Carson Soucy, des gars comme ça que tu vas nécessairement gagner au sein d'une deuxième paire. Et oui, Will Coyle a une belle saison et tout ça, c'est un élément physique, c'est quelqu'un qui est capable de marquer de temps à autre. Tout ça, ça m'a surpris. Mais tu sais, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Et là, ben, on commence à échanger vraiment les vétérans de l'équipe. Et on n'obtient pas grand-chose. C'est ça que je trouve un peu décevant.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je me rappelle aussi de la ligne de jeunes joueurs là, avec Capo Caco, Alexis Lafrenière, Philippe Ritil. Ritil est parti. Même chose pour Capo Caco qu'on a échangé au Kraken de Seattle, qui a connu une bonne fin de saison, lui, avec le Kraken, il faut le dire. Là. Alors, je sais pas trop c'est quoi le plan chez les Rangers de New York, mais ça a été une saison extrêmement décevante l'an dernier. On les voyait dans les meilleures équipes de la division métropolitaine, en première position pour plusieurs. Et ils ont extrêmement déçu tout au long de la saison. Pas certain nécessairement, moi, Martin, que c'est une équipe qui va se replacer aussi rapidement puis qui va accéder directement aux séries dès l'an prochain, là.
Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Vérifix. Je regarde un peu le scénario, tu sais. Il y a quand même quelques points d'interrogation, là. Disons qu'avec Kreider, puis là, je pense que c'est sûr qu'on va ajouter des éléments, mais tu regardes un Gabriel Perreault qui pourrait s'ajouter à la formation, le choix de premier tour,
ouais,
des Rangers en 2023. C'est pas quelqu'un, je pense, qui est prêt pour la LNH. Je pense qu'il y a quelques problèmes au niveau physique. Son coup de patin n'est pas nécessairement le plus éclatant. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait besoin de passer un peu de temps dans la Ligue américaine. Est-ce que c'est vraiment une option? Peut-être pas. Et en même temps, je dis ça, c'est parce que c'est clair que Chris Drury va ajouter beaucoup d'éléments via transaction, via le marché des joueurs autonomes. C'est clairement ça, la stratégie. Sauf que là, tu te dis, est-ce que tu peux rivaliser avec les Hurricanes, les Panthers de la Floride, les Maple Leafs de Toronto, les grosses équipes de l'Association de l'Est? Et là, malheureusement, c'est que tu as des joueurs qui commencent à vieillir. On n'est pas nécessairement capable d'avoir de la relève pour remplacer des joueurs comme Kreider, et dans les transactions qu'on accomplit, je trouve pas qu'on est capable de remplacer ces morceaux-là, donc je trouve que ça fait mal un peu.
Ouais, je m'attends quand même à une meilleure saison d'Igor Shesterkin l'an prochain, lui qui avait signé un nouveau contrat. Là, il y a eu cette saga-là aussi en début de saison chez les Rangers. Ça n'a pas été une saison à tout casser pour Shesterkin. Je m'attends à le voir bien meilleur la saison prochaine. Mais je suis dans la même lignée que toi, je suis pas convaincu par ce qu'on fait à New York avec Chris Drury, certaines décisions qu'on prend au sein de l'organisation, mais c'est quand même une équipe qu'on va surveiller durant l'été, les Rangers, parce que je pense que c'est le premier domino, puis il va y avoir beaucoup de changements de personnel à New York. Ça a été confirmé au courant des dernières minutes, Martin, c'est Stuart Skinner qui obtient le filet ce soir pour les Rangers, pour les Oilers, pardon, pour le match numéro 4. En accord avec cette décision-là, surpris de la décision d'envoyer Stuart Skinner devant le filet?
Pas vraiment surpris, FX, tu sais, je pense que du côté de Chris Knobloch, puis c'est pas comme si on avait un gros luxe devant le filet, je veux dire, un gars comme Calvin Pickard, c'est pas comme si c'était un grand gardien de but non plus, donc je pense qu'on se dit, ben on va vivre et on va mourir un petit peu avec Stuart Skinner, ça a été le numéro un toute la saison, on y va avec lui, maintenant, je t'avoue que tu regardes un match comme le, puis on s'entend, on s'est fait complètement déclasser par les Panthers, pas simplement de la faute à Stuart Skinner, mais tu sais, déjà que t'avais donné un très mauvais but en prolongation à Brad Marchand, tu débarques dans le premier match, puis je répète, c'est pas simplement de sa faute. Il y a eu une erreur un petit peu de communication en défense qui a mené au but de Marchand le premier but. Mais à un moment donné, tu sors complètement de ton filet, tu donnes complètement, tu facilites la tâche à des gars comme Marchand. Je t'avoue qu'à un moment donné, ça a peut-être pas aidé justement les Oilers à se bâtir une confiance et se dire, ben écoute, on rebondit, on est capable de gagner ce match-là. Puis par la suite, ben on l'a complètement échappé. Je te dirais que c'est ça. C'est pas surprenant. Peut-être que je serais allé dans cette direction-là, mais en même temps, je pense que Stuart Skinner, pas que ça passe ou ça casse, mais il va devoir disputer un très gros match par contre ce soir parce que à un moment donné, s'il continue à avoir des contre-performances, disons qu'il s'effondre encore comme lors du dernier match et en prolongation lors du match numéro 2, ben à un moment donné, tu n'auras pas le choix de regarder de l'autre côté. Si tu veux quand même gagner la Coupe Stanley, si tu veux quand même demeurer dans le coup, et si c'est le cas, ben ça t'amène beaucoup de questions. Là.
Beaucoup de changements à la formation des Oilers d'Edmonton. Je viens de voir l'alignement pour le match de ce soir. Arvidsson et Klingberg sont laissés de côté. Stetcher est dans la formation. Perry est rétrogradé sur un quatrième trio. Ça donne les combinaisons suivantes. Ryan Nugent-Hopkins, McDavid et Connor Brown sur le premier trio. Kane, Draisaitl et Kapanen le deuxième. Jeff Skinner, Henrik et Frederick sur le troisième. Et Podkolzin, Yanmark, Perry, sur le quatrième. Kulak, Bouchard en défense. Ekholm, Wallman et Nurse, Stetcher. Je suis quand même surpris de voir le nombre de changements à la formation des Oilers, Martin.
Ouais, ben je pense que ça envoie clairement un message sur le dernier match. Il y a quand même quelques joueurs qui ont déçu. Tu sais, je pense à un gars comme Arvidsson n'a peut-être pas montré grand-chose. Moi, j'aurais peut-être aimé qu'un Vasily Podkolzin sorte de la formation, a commis un revirement qui a fait très mal sur le but de Sam Bennett, a été complètement détruit aussi sur la mise en échec. Mais tu sais, donc, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de brasser un peu la soupe parce que tu regardes le dernier match, je pense que des gars comme McDavid et Draisaitl ont offert quand même quelques éléments intéressants dans les 10 ou 15 premières minutes, si tu veux, et là, par la suite, ça s'est effondré. Peut-être qu'on se dit que c'est justement au niveau des joueurs de soutien qu'on a peut-être besoin d'aider un petit peu plus les grosses vedettes et tout ça, mais tu sais, en même temps, peu importe ces changements-là, je pense que la clé un petit peu du côté des Oilers, et je suis pas mal certain que Chris Knobloch va en avoir parlé, c'est l'indiscipline. Tu sais, un gars comme Evander Kane, qui est comme vraiment de mauvaise punition, qui est frustré, qui tente de brasser, mais pas de la bonne façon. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas commencer à donner des avantages numériques aux Panthers non plus. Là. Peu importe les changements, ça va te faire mal.
Ouais, le match le plus important de la série Oilers-Panthers ce soir, c'est à 20h en Floride. On s'arrête deux petites minutes. Martin, reste avec nous. Au retour, on revient sur le combine de la semaine dernière et ce qu'on a entendu de la part du Canadien de Montréal. Qu'est-ce que fera le Canadien au cours des prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on a entendu sur le Canadien au combine? On en parle avec l'excellent Martin Thériault au retour de la pause.
Ensemble, nous jouons la game.
La game.
De 10h à 14h, du lundi au vendredi jusqu'au 4 juillet prochain. FX Bénard, Ben Roger et... deux fois semaine, notre ami Martin Thériault du podcast La Relève. On est rendu à parler du Combine.
Du Combine. La semaine dernière, Caleb Desnoyers était présent, évidemment, au Combine. Et Martin, juste avant d'y aller avec le Canadien, de ce qu'on a entendu et tout ça, je veux te lancer sur Caleb Desnoyers qui fait tourner les têtes sans même participer aux tests physiques.
Ouais, c'est clair. Je pense que Caleb Desnoyers, puis c'est pas une surprise du tout pour avoir entendu énormément de choses sur sa personnalité. C'est quelqu'un qui est attachant. C'est quelqu'un qui n'a aucune sorte de pression lorsque t'es dans des matchs importants, t'es deux ou trois heures avant le match. Tu trouves le moyen de faire les blagues, tu trouves le moyen de jaser avec des gens qui connaissent, qui sont pas nécessairement dans la rencontre. C'est quelqu'un là qui a du plaisir à jouer au hockey dans son style de jeu, ben tu vois que c'est quelqu'un qui présente tous les traits d'un joueur de hockey. Et donc, ben dans ces entrevues-là, puis c'est ça, comme tu l'as mentionné, lui, il est blessé à ses deux poignets, ouais. Donc n'a pas participé aux tests physiques, mais a évidemment participé aux entrevues. Et dans ses réponses, je pense qu'il a été franchement impressionnant. Tu sais, je donne un exemple, la réponse des... Il y a une question des Canadiens de Montréal qui mettent la situation suivante. On sait que les Canadiens me posaient des questions un peu... intense, là.
J'ai vu ça.
Je mets une mise en situation. Donc, on dit, tu es sur une île déserte avec un de tes amis. Il y a une bouteille d'eau et il y a un bâton de baseball. Ton ami saisit la bouteille d'eau. Qu'est-ce que tu fais? Puis lui, il répond tout simplement « home run ». On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, mais tu sais, il a lancé ça un peu comme lui-même. Donc, je pense qu'il était très détendu. Il a montré également beaucoup de confiance. Il a été capable de lancer quelques phrases. Je mentionne notamment dans une entrevue à TVA Sport, a mentionné quelque chose du genre « si les Canadiens veulent m'avoir, veulent gagner la Coupe Stanley, ben, ils ont besoin de gagnants. Ils ont besoin de s'avancer, de me prendre. C'est parfait. » Donc, je pense que ça démontre beaucoup, tu sais, justement, le côté confiance, le côté relax. À un moment donné, les gagnants, c'est surtout ça. C'est que tu ne te laisses pas ébranler par grand-chose. Et je pense que Denoyer a bien accompli sa mission là.
Alors tu le vois peut-être monter éventuellement dans les rangs de sélection en vue du repêchage. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le mettent. Il y en a qui le mettent 3. Le Snake nous a parlé hier qu'il le mettait 3 dans sa liste. Certains le mettent 4, 5, 6. Est-ce que tu penses que le Combine va l'avoir avantagé à être repêché plus tôt au repêchage?
Je pense que ça va avoir davantage conforté certaines équipes et okay. ça va avoir fait tomber certaines équipes peut-être un peu plus en amont. Mais il y avait déjà des rumeurs comme quoi il allait sortir 3, 4, 5 ou 6. Mais ce que j'ai trouvé curieux, par contre, je m'amusais à regarder le fameux repêchage simulé, notamment d'un Scott Wheeler, qui apportait quand même des informations qu'il avait obtenues au Combine pour bâtir son classement. Et au deuxième rang, bon, même Michael Misa quand même avec les Sharks de San Jose, mais il disait les deux noms qu'on entend potentiellement pour les Sharks, c'est Michael Misa, c'est le favori.
Ouais.
Et il disait Caleb Desnoyer. Ça, c'est
justement ah ouais, ok.
Je me disais, bon, puis là, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu poussé, là, mais ce qu'il mentionnait, c'est ne l'excluez pas, parce que, justement, au niveau de son attitude et le fait que, en termes de joueur de hockey, il coche vraiment tout, c'est peut-être pas un premier joueur de centre, mais c'est un deuxième qui va accomplir tout et qui est vraiment capable de t'amener à une Coupe Stanley. Donc, vraiment, là, c'est dire à quel point sa cote a augmenté beaucoup dans les dernières semaines et spécialement la semaine dernière. Là.
Ça m'étonnerait si jamais il n'y a pas de transaction, parce que c'est bien rare qu'il y a des transactions, des choix au repêchage très élevés. Là. Ça me surprendrait pas que la formation du Mammouth de l'Utah le sélectionne quatrième s'il est encore disponible. Là, je pense pas que Caleb Desnoyers va glisser numéro 5. Je pourrais me tromper. Évidemment, on a toutes sortes de surprises au repêchage. On l'avait avec Beckett Sénécal en dernier, troisième au total par les Ducks. Mais d'après moi, Caleb Desnoyers va être sélectionné dans les 4 premières sélections. J'ai hâte de voir, ça va être intéressant cette année, le repêchage. Juste avant d'y aller avec le Canadien, tu voulais également me parler de Brady Martin qui renverse beaucoup d'équipes. Je sais qu'il y a il a soupé avec les Bruins de Boston. C'est un gars qui va être sélectionné plutôt haut, mais sa cote a monté dans les dernières semaines.
Ouais, un petit peu à l'instar d'un Desnoyer, je pense que, bien, premièrement, l'histoire de Brady Martin est assez fascinante, là. C'est quelqu'un qui a été élevé sur une ferme en Ontario. Et c'est pas quelqu'un qui s'est jamais vraiment entraîné, mais en gymnase, là, je parle, mais ça demeure quelqu'un qui, au niveau naturel, au niveau de la force physique, est extrêmement fort parce que il a travaillé comme n'importe quel fermier qui peut nous écouter en ce moment. Donc, tu sais, a fait les foins, a été en mesure de ramasser quelques roches, vraiment, tu sais, puis s'est assuré de, par exemple, prendre le lait puis sur la ferme familiale et tout ça. C'est quelqu'un qui a été habitué de travailler fort pour te donner un exemple. Lui, il disait, peu importe mon entraînement cet été, peu importe les défis que j'ai devant moi, je vais quand même travailler à la ferme, je vais quand même me lever à 6h du matin. Et de ce que j'ai compris dans les entrevues, c'est que justement, il a été très naturel dans ses réponses. Il a eu beaucoup de réparties, il n'y avait pas beaucoup d'hésitation, n'avait pas peur de répliquer directement aux équipes qui pouvaient le défier. Là, je te donne un exemple. À un moment donné, il y a un dirigeant qui l'a un peu défié en lui disant, ben écoute, sur une ferme, maintenant, tout est automatisé, tout est informatique, tu dois pas travailler si fort que ça. Et Martin qui lui lance du tac au tac, ben tu viendras sur la ferme travailler avec moi, tu vas voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je pense qu'au niveau de l'attitude, il y a quand même séduit certaines personnes. Tu sais, c'est une chose de dire comment travailler, mais lorsque ça devient dans ton ADN, depuis que tu es tout jeune, tu vas aller chercher quelques points. Une information qui est intéressante également, lui ne sera pas présent à son repêchage, simplement parce qu'il s'est dit, ben comme c'est décentralisé,
ouais,
j'ai pas d'intérêt, j'aime mieux me concentrer sur mon entraînement et tout ça. Donc je pense qu'avec son attitude, le côté terre à terre qu'il a, je pense que c'est là que séduit des équipes.
Je sais que c'est pas nécessairement dans les sujets, là, mais pour votre podcast La Relève, j'ai vu que vous aviez sorti les rangs de sélection, je crois, Martin, 11 à 20. Les rangs 1 à 10 vont sortir quand?
Ça, ça va sortir lundi.
Écoute, lundi prochain.
Habituellement, nos épisodes sont les mardis, mais là, évidemment, Anthony Desaulniers a un événement de golf avec BPM Sport.
Oui.
Donc, on le devance d'une journée. Donc, ça, mais ça, ça, je suis très, très, très excité de publier ça. Là. C'est un repêchage qui est fascinant et ça fait en sorte qu'on a la mienne et la mienne. J'ai consulté la liste de Simon Smith-Boisvert. Tout le monde a des listes très fascinante. Là, c'est une belle année pour suivre ça.
Oui, il y a vraiment des choix différents. Hier, on recevait le Snake pour nous parler de sa liste. Il y avait des choix assez, pas controversés, mais il y a des coups de cœur qui surprennent quand on compare avec d'autres listes du repêchage, mais ça, c'est la beauté de la chose. Je veux finir en te parlant du Canadien avec ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que le Canadien fera au repêchage? Je sais que plutôt étrange comme information, mais c'est Anthony Martineau qui rapportait ça la semaine dernière. Le Canadien qui a soupé avec des gars qui vont être repêchés 4, 5 ou 6 au repêchage, notamment Caleb Desnoyers. En fait, on a rencontré ces joueurs-là, mais j'ai été surpris parce que ce sont des joueurs qui ne seront pas disponibles nécessairement aux sélections 16 et 17, Martin.
Ouais, je pense que par contre, que Kent Hughes, il faut quand même que tu fasses. Donc, ce que je vais expliquer plus tard, là. Je pense qu'il faut que tu fasses attention. Tu sais, je vais prendre l'an dernier, par exemple. Kent Hughes est très bon là-dedans d'envoyer toutes sortes d'informations. Je sais pas si tu te souviens, l'an dernier, à un moment donné, on parlait de Zeev Bowyum comme choix des Canadiens de Montréal environ 24 ou 48 heures avant le repêchage. Finalement, il l'avait admis après avoir choisi Ivan Demidov. Il disait, Demidov, on a comme fait exprès de ne pas le rencontrer. On a fait exprès de un peu cacher toutes sortes d'informations, mais ça a été notre homme dès le début. Donc là, ce que tu vois un petit peu, c'est qu'on a rencontré, et je pense que ça fait partie. Je pense qu'il faut que tu réfléchisses à cette éventualité-là, parce que des offres de transactions, il peut y en avoir de toutes sortes, et t'as clairement des joueurs qui vont séduire les Canadiens. Donc, je pense que ça, tu dois quand même leur parler. Cela dit, je prends un exemple. Radin Merka, qui est un défenseur droitier de 6 pieds 6 pouces, qui a terminé la saison avec les Thunderbirds de Seattle, qui a joué dans les rangs professionnels en Tchéquie, ce qui séduit souvent l'état-major des Canadiens. Lui a dit que les Canadiens, c'est l'équipe qu'il avait rencontré le plus, qui avait eu beaucoup d'intérêt. Un Lyndon Lakovitch, un gars de 6 pieds 4 pouces, un gros bonhomme avec un gros coup de patin, un gros lancer. Lui aussi a dit qu'il avait eu beaucoup d'intérêt des Canadiens. On dirait, si on suit simplement à ça, et je le répète, on peut envoyer des mauvaises informations par moment, mais c'est comme si les Canadiens se préparaient peut-être à avancer. Donc, peut-être reprendre des choix de deuxième tour, quelques espoirs, et de s'avancer dans, disons, de 6 ou de 7 rangs, peut-être, et d'obtenir un espoir un petit peu plus solide et qu'on aime un petit peu plus. Donc, ça, il y a ça. Et je dirais peut-être un gars à surveiller, Cameron Reed. Je sais que dans son entrevue, il a séduit beaucoup l'état-major des Canadiens, notamment, c'est une phrase en français, c'est un défenseur gaucher qui est très mobile, c'est quelqu'un qui a un excellent coup de patin, mais qui est bon défensivement, bon physiquement également. Je dis pas que ça va être le choix des Canadiens, mais je pense que c'est un gars qui devient intéressant, qu'on a pu entendre que les Canadiens pouvaient l'aimer quand même. Là.
Toujours, ça, c'est la première fois que je l'entends, celle-là, moi. Moi, j'ai entendu le Canadien va se débarrasser des choix 16 et 17 pour aller chercher un bon deuxième centre, un très bon deuxième centre, mais que le Canadien conserve et même veulent devancer leur choix, celle-là, c'est la première fois que je l'entends, Martin. Intéressant.
Mais c'est possible aussi qu'on s'avance et qu'on échange le choix 17 aussi. Je pense que la beauté de la chose, c'est que la banque d'espoir est pleine. Il y a quand même beaucoup de choix de 2 et de 3e tour, donc puis ils n'ont pas vraiment besoin de profondeur en termes de la banque d'espoir. Donc, c'est là que je pense qu'on est avantagé de peut-être s'avancer. On a les munitions pour le faire.
Ben encore une fois, est-ce que c'est du bluff?
Ah!
Je ne sais pas.
C'est peut-être un écran de fumée. Il y en a déjà eu avant aujourd'hui. Martin Thériault, toi, tu n'es pas un écran de fumée. Tu es là, tu es tout là. Et on aime ça te jaser deux fois semaine minimum. Merci, Martin.
Merci, Martin.
Ça fait plaisir, les gars. C'est toujours un plaisir.
Martin Thériault de l'excellent podcast La Relève. J'ai mon avis, David Armstrong, qui écoute beaucoup BPM Sport et qui écoute les différents podcasts, et il m'a dit « La relève, c'est bon en tabaslac », comme dirait l'ami Gilbert Delorme. Alors voilà, merci Martin Thériault et Anthony Desaulniers. On s'arrête pour une courte pause, alors que Robbie Hart et ses deux acolytes installent les caméras en studio. Je vous rappelle qu'on aura une heure consacrée au stade. Il y en a qui veulent le maintenir, c'est un symbole puissant. Il y en a qui veulent le sacrer à terre. Il y en a qui sont indifférents. Robbie Hart est en préparation d'un documentaire sur les 50 ans du stade qui vous sera proposé l'an prochain sur le grand écran. Alors, on aura cette émission spéciale. Peut-être que si vous avez un argumentaire intéressant en tribune téléphonée, peut-être que vous allez vous retrouver dans le documentaire de Robbie. Sait-on jamais.
Ouais.
Mais avant, ils sont en direct là-bas sur Crescent. Le sexe symbole de l'épingle. Jean-Maxime Sanssouci, qui a déjà joué dans une autre vie, dans un film érotique des années 70, c'est clair. Il look de même. Il look de même, ça n'a pas de sens. Il est au-delà d'un acteur de film porno des années 70. Un excellent analyste de la F1. On lui jase au...